Avant-propos. Aller au-delà. Ce livre est une invitation à découvrir qui vous êtes vraiment. Commençons par deux questions simples. Dans les moments où vous êtes satisfait, observez-vous votre contentement. Et lorsque vous êtes en colère, une partie de vous est-elle totalement libérée de ce courroux? Si vous répondez positivement à ces deux questions, vous pouvez interrompre votre lecture. Vous êtes arrivé au bout du chemin. Vous êtes allé au-delà de la conscience ordinaire et c'est justement cette transcendance qui est nécessaire pour savoir qui vous êtes vraiment. Tous les jours, la connaissance de vous-même se révélera dans votre vie. Avec le temps, vous prendrez conscience que vous vivez dans la lumière. Ou peut-être est-ce déjà le cas. À l'instar du grand poète bengali Rabindranath Tagore, vous pouvez dire « Mon existence est une surprise perpétuelle ». Il serait fascinant de vous rencontrer, car il ne fait aucun doute que votre existence est des plus inhabituelles. Peut-être supposez-vous vous-même que vous êtes unique en votre genre, car en regardant autour de vous, vous constatez que la grande majorité des gens sont tout simplement satisfaits quand ils sont satisfaits et en colère quand ils sont en colère. Mais pas vous. Vous êtes allé au-delà. Quand j'ai commencé à écrire des livres, il y a 30 ans, on pensait qu'il était tout à fait normal de vivre sa satisfaction et sa colère sans s'observer. La pleine conscience n'était pas à la mode. La méditation était toujours considérée comme suspecte par le commun des mortels et la question de l'élévation de la conscience dans son ensemble était perçue avec scepticisme et froideur. J'étais jeune médecin à Boston. Ma famille s'agrandissait et je croulais sous le travail. Je m'occupais de nombreux patients et tous les jours, j'étais en déplacement entre deux hôpitaux, voire plus. Quand j'étais content de voir que l'état d'un patient atteint de problèmes thyroïdiens s'améliorait, est-ce que j'observais ma satisfaction? Absolument pas. Et si un pharmacien peu soucieux avait traité une ordonnance avec négligence, y avait-il une partie de moi qui n'éprouvait aucune contrariété et n'était pas impliquée tel un témoin silencieux? Non. Comme toutes les personnes que je connaissais, mes moments de satisfaction ou de colère n'étaient nullement mystérieux. Mais étant originaire d'Inde, j'ai pu retrouver dans mon enfance des indices montrant qu'il existait un autre état. D'après une ancienne Upanishad, le mental humain ressemble à deux oiseaux assis sur une branche. L'un d'entre eux mange le fruit de l'arbre, tandis que l'autre l'observe avec amour. Ayant fréquenté pendant quelques années une école dirigée par un ordre de moines catholiques, j'ai découvert l'existence d'éléments supplémentaires indiquant qu'il existait une autre source. Par exemple, lorsque Jésus a dit à ses disciples d'être dans le monde, mais pas du monde. Si vous cherchez cette formule sur Internet, vous trouverez de nombreuses interprétations qui portent à confusion. Mais au cœur de cet enseignement, il y a la différence entre croire à la vie matérielle et ne pas y croire. Lorsque vous ne vous laissez pas prendre au jeu, selon Jésus, vous êtes en quelque sorte aux côtés de Dieu. J'aimerais pouvoir dire que ces indications au sujet de l'élévation de la conscience m'ont habité et ont influencé ma vie. Mais tel n'a pas été le cas. Je les ai stockés au fond de mon esprit sans jamais y faire appel dans ma vie stressante et trépidante. Je n'avais aucune conscience, pas même balbutiante, de la vérité avec un grand V, qui est que moi-même, comme tout un chacun, incarne le mystère de l'existence. Au bout du compte, c'est la raison pour laquelle Tagore était éternellement surpris. Une fois qu'on s'est éveillé à la réalité, on se confronte au mystère de l'existence de manière intime et personnelle. Sans vous, sans moi, il ne pourrait y avoir de mystère. J'ai conscience qu'en une phrase ou deux, j'ai fait un bond de géant. En effet, il y a un fossé important entre ce qu'une personne doit faire au quotidien, à commencer par se réveiller, s'habiller, aller travailler, etc., et le mystère de l'existence. Une société fondée sur la raison et la science considérera avec scepticisme des notions telles qu'être dans le monde, mais pas du monde, ou la vérité avec un grand V. Nous vivons ensemble dans une réalité où, pour beaucoup, tout s'arrête aux apparences. Le monde physique nous défie. nous réussissons à comprendre les nombreux problèmes qu'il nous pose et, tandis que l'esprit rationnel explore l'inconnu, ce sont des faits et des données nouveaux qui émergent, et non un sentiment d'émerveillement, ne serait-ce que d'exister. La première chose qui m'a donné envie de me confronter au mystère de la vie et au mystère que je suis moi-même en tant qu'être humain a été la médecine. J'ai pratiqué l'endocrinologie, une spécialité qui me fascinait, parce que les hormones sont des molécules chimiques uniques. Elles peuvent vous rendre mou et maussade si vous avez une déficience thyroïdienne, ou elles peuvent vous faire fuir ou vous amener à vous battre lorsque vous êtes confronté à une menace. Lorsqu'un passant voit dans la rue un magicien léviter sous ses yeux, c'est une montée d'adrénaline qui est responsable de sa réaction typique, tressaillir ou partir sans demander son reste. Nous avons tellement l'habitude d'accepter que ces comportements soient induits par des substances chimiques que presque tout le monde associe le comportement d'un adolescent à un tourbillon hormonal. Mais même lorsqu'on parvient quelque peu à maîtriser sa libido, en réalité, elle ne l'est jamais vraiment, de même que le fait de tomber amoureux n'est jamais rationnel. Si je m'étais contenté d'accepter ce lien de bon sens entre les hormones et leurs effets, l'histoire se serait arrêtée là. Mais il y a une ombre au tableau, mais elle s'avère gênante, pas seulement sur le plan hormonal, car elle pourrait bien remettre en cause toute la réalité. Il existe une hormone cérébrale appelée ocytocine, qui a accédé à la célébrité en s'étant fait surnommer « hormone de l'amour ». Parce que lorsque le cerveau sécrète cette hormone en grande quantité, l'individu devient plus affectueux et fait davantage confiance. Mais cette molécule sécrétée par la glande pituitaire est beaucoup plus complexe que cela. Par exemple, elle est fabriquée en grande quantité chez la mère au cours de l'accouchement et de l'allaitement, ce qui favorise l'intimité avec le bébé. De plus, si vous caressez votre chien pendant un certain temps, vous-même et votre animal de compagnie produirez de l'ocytocine. En outre, sous l'effet de l'ocytocine, les gens se mettront à aimer leur drapeau national, tout en restant indifférents au drapeau des autres nations. Et au cours de l'activité sexuelle, l'ocytocine augmente chez les femmes, ce qui renforce le lien émotionnel qu'elles ont avec leur partenaire sexuel, même si cet effet ne semble pas se produire chez les hommes. Quelque chose d'étrange doit se passer, et pourtant, ces découvertes complexes n'ébranlent pas la foi de la plupart des endocrinologues. J'étais quant à moi différent. Ce qui m'ennuyait était que l'ocytocine n'a pas les effets qu'on lui attribue, à moins que le mental n'aille dans le même sens. Ainsi, une femme n'aura pas davantage d'affection pour son partenaire sexuel si elle est forcée, effrayée, en colère ou simplement distraite par quelque chose de plus important. Vous ne sécréterez pas d'ocytocine si vous caressez un chien que vous n'aimez pas. Et vous n'aimerez pas le drapeau de votre pays si un régime autoritaire vous force à le saluer. C'est ainsi que j'ai découvert l'impact explosif du mental sur le corps. C'est comme si nous étions deux créatures en une, l'une étant un robot pouvant être programmé par des molécules chimiques et l'autre étant un acteur qui pense, réfléchit et décide librement. Ces deux créatures sont en apparence incompatibles. Elles n'ont pas le droit de coexister. Pourtant, elles coexistent bien, comme le reflète la structure de notre système nerveux. En effet, une partie fonctionne automatiquement, ce qui nous permet de rester en vie sans même que nous ayons à y réfléchir. Pour continuer de respirer ou pour que votre cœur batte, vous n'êtes pas obligé d'y songer. En revanche, vous pouvez prendre le contrôle de ces mécanismes grâce au système nerveux volontaire qui vous permet de modifier votre respiration et même, avec un peu de pratique, de ralentir votre rythme cardiaque. On se retrouve alors soudain au bord du mystère parce que quelque chose doit décider de passer à l'action ou non. Ce quelque chose ne saurait être le cerveau, car celui-ci est indifférent à l'emploi de l'un ou l'autre aspect du système nerveux central. Si vous courez un marathon, votre cerveau augmentera votre rythme cardiaque sans que vous y songiez, mais à l'origine, c'est vous qui avez décidé de courir le marathon. Mais qui est ce « vous » ? C'est cette question persistante qui jette un pavé dans la mare.